Bonjour, bonsoir. Vous écoutez D'assonance en dissonance, l'émission mensuelle consacrée à la poésie contemporaine. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux auteurs, deux poètes, deux artistes au sens large, décédés en début de notre année 2026. Pour commencer, en forme de devinette, le premier est le fils d'un architecte et d'une comédienne du nom de Marion Triolet. L'auteur dont il s'agit est né en 1947 et il est mort le 16 janvier 2026. Il a passé son enfance et son adolescence à Thonon-les-Bains, en Savoie. Puis, il a étudié la philosophie et la philologie à la Sorbonne. En 1974, sa première pièce, L'Atelier volant, est mise en scène par Jean-Pierre Sarrazac. En 1976, pour La Criée, le Théâtre national de Marseille, il réalise Falstaff, une libre adaptation des deux Henri IV de William Shakespeare. Avec ces indices, je suis sûr que certains d'entre vous, chers auditeurs, seront en mesure de citer le nom de cet immense écrivain. Il s'agit en effet de Valère Novarina. En guise d'introduction, je vais lire deux articles parus au lendemain de son décès. D'abord, un article du Monde. Valère Novarina, auteur, metteur en scène, peintre, est mort à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à 5h30 du matin, vendredi 16 janvier. Il avait 83 ans. Le théâtre vient de perdre un dramaturge exceptionnel. Créateur prolifique dont l'imagination et le verbe échevelé faisaient de la résistance quand le langage se réduit trop souvent à n'être que communication. Plus proche des excès rabelaisiens que de l'économie beckettienne, cet écrivain généreux, chez qui la parole n'était pas bavardage mais brassage vibrant d'émotions, de couleurs, de sensations, de fêtes et d'actions, polyphonie de drames humains et d'épopées mirifiques, s'était imposé dès les années 1980, comme le chef de file de l'écriture contemporaine. C'était donc l'article paru dans Le Monde, et l'article paru dans Les Inrecuptibles dit ceci. Mort à l'âge de 83 ans, l'écrivain et dramaturge Valère Novarina laisse une œuvre centrale du théâtre contemporain, une opération de dynamitage du langage, déroutante et hilarante. Il y a un an, invité par la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, Valère Novarina exposait son œuvre picturale en confiant que dès qu'il se sentait bloqué dans l'écriture, il se jetait dans le dessin. L'extension d'un même geste de création déployé sous une autre forme vouée à voir le langage à l'œuvre. Découvrir ces toiles abstraites, c'était aussi entendre ces mots concrets. Ceux qui ont nourri le théâtre contemporain d'une manière flamboyante ces 40 dernières années, au point de susciter l'admiration de celles et ceux éblouis par son inventivité et sa créativité boulimique, quand d'autres restèrent hors de ces jeux, comme perdus face à ces facéties, sans repère dans un monde du langage dont ils tordaient les règles et les usages. Valère Novarina écrivait en cachette dès l'enfance. À 12 ans, une sonate de Beethoven provoque une vision. Et là, je cite Valère Novarina. Dans le fond, le texte était dicté. J'obéissais à des dictées. C'est quelque chose qui a lieu dans l'oreille, très lié avec la musique. Fin de citation. Cette dimension musicale traverse toute son œuvre. Ses textes peuvent être comparés à des partitions où les mots s'enchaînent par résonance phonétique, par capillarité sonore. Je vous propose maintenant d'écouter la voix de Valère Novarina. Il s'agit d'un enregistrement effectué au Théâtre de la Colline en 2013. Le langage brûle les mots.
Je voudrais écrire un livre qui s'appellerait pour en finir avec la communication. parce que c'est terrible, c'est une mécanisation totale de l'esprit, et une conversation, un dialogue, un échange, c'est une sculpture entre nous. C'est une sculpture comme ce bouquet de fleurs, ces deux bouteilles d'eau, etc. C'est quelque chose qu'on crée entre nous, à deux, et particulièrement en creusant. En creusant les mots, en cherchant les mots, les contre-mots, etc. Il y a une sorte de drame du langage qui est extraordinaire. Et en français, alors ce qui me frappe énormément, c'est que le français cache ses origines. On ne sait jamais d'où viennent les mots. On sait d'où viennent les mots en allemand, parfaitement, en arabe, je crois, en hébreu aussi, je crois que c'est un peu comme ça. Le français est totalement mystérieux. L'autre jour, j'ai cherché, par exemple, sur un dictionnaire étymologique, le mot « légume ». C'est curieux. Ou par exemple, le mot « sauvage », magnifique, qui vient de la forêt. Voilà. Enfin, il faut montrer que le langage ouvre des voies, et explore, etc. Et peut-être qu'il brûle les mots. Peut-être que la parole ou la pensée de synonyme brûle les mots, les rend ardents, les consume et aussi les détruise, pas pour les détruire, mais pour renaître. Il y a un rapport avec la négativité dans la respiration. Alors, s'il y a une chose à laquelle je crois, c'est que la pensée est l'accomplissement de la respiration. Que la respiration renverse de l'air, étouffe, et passe par la mort. On meurt, je ne sais pas combien de fois par jour, on respire, etc. Et ressort autre. Il y a une sorte de processus résurrectionnel dans le langage.
Vous venez d'entendre la voix du regretté Valère Novarina, décédé en janvier 2026, à qui l'émission veut rendre hommage pour ce qu'il a apporté au langage, à savoir une densité, un tranchant, un déferlement même parfois. Vous l'avez entendu, son rapport à la langue, aux mots, est semblable à une respiration, un mouvement résurrectionnel, comme il le dit. Quelque chose d'organique qui va plus loin que la simple communication et qui engage le vivant que nous sommes dans un processus profond, essentiel. Valère Novarina a produit un travail poétique qui épouse le théâtre pour incarner les inventions langagières. La poésie se fait alors concrète, corporelle, buccale. Il avait même déclaré, je cite, « Les acteurs sont des peintres, et les peintres entrent en scène. Ils nous capturent et ils nous délivrent eux aussi par la respiration. » Fin de citation. Cette circulation, dont la respiration est une manifestation avec échange entre un dedans et un dehors, cette circulation donc entre les arts, théâtre, poésie, peinture, irrigue toute la création de Valère Novarina. La première édition du « Drame de la vie », paru chez POL en 1984, paraît dans la collection Poésie Gallimard en 2003. Ce geste éditorial n'est pas anodin, car il reconnaît la dimension fondamentale poétique de l'œuvre théâtrale de Novarina. Ses livres, « Le théâtre des paroles », paru en 1989, « Pendant la matière », 1991, « Devant la parole », 1999, puis « Voix négative », explore le corps de l'acteur où l'espace et la parole se croisent dans le foyer respiratoire. Chez Novarina, le coup de dé malarméen n'a pas lieu sur la page, en deux dimensions. L'espace scénique est là où Novarina déploie les mots de la tribu qu'il renouvelle. Il travaille sur un plateau, dans un espace tridimensionnel, un volume. Pour mieux cerner et citer un certain nombre d'œuvres de Valère Novarina, je vais lire à présent ce que Geneviève Joly, professeure en art du spectacle à l'Université de Strasbourg, a écrit suite au décès de Valère Novarina. Je cite, et j'ouvre les guillemets. Si Valère Novarina représente une personnalité à la fois forte et singulière dans le paysage théâtral contemporain, je rappelle qu'il est avant tout un artiste polyvalent, poète, dessinateur, plasticien, peintre, auteur dramatique et metteur en scène. J'insisterai pour ma part sur les particularités de son théâtre des oreilles, un théâtre de la parole, plus précisément de toutes les paroles, et de celles venues aujourd'hui comme d'hier. Il existe en effet tout un travail créatif visant à insérer au sein des pièces des œuvres plus anciennes de Saint Paul, Saint Jean ou Saint Augustin, mais encore celles plus récentes de François Rabelais, Alfred Jarry ou Antonin Artaud par exemple. Ainsi nourri ou farci de divers textes antérieurs, cette dramaturgie qui se donne également pour projet de raconter l'homme, indépendamment de ce que l'on appelle ordinairement l'humanisme, se remet à chaque fois en chantier par le renouvellement constant d'un langage empruntant aussi bien au discours savant, philosophique, qu'à la vox populi, patois, proverbe ou slogan. En outre, et dès le départ, Falerno Varina a œuvré à une forme de destruction des conventions théâtrales, lui permettant d'élaborer un nouveau théâtre. Dans celui-ci, le principe de la cruauté d'Antonin Artaud serait, selon Pilar Anthony et Michel Corvin, transplanté dans le corps de la langue, dans l'énergie d'une parole, investissant, par son rythme, le souffle et l'espace. Et pour finalement substituer, à l'angoisse artaudienne, une incroyable jouissance du dire. Cette incroyable jouissance du dire repose précisément sur la multiplication ou l'exploration des modalités du dire ou de l'écrire, de sorte que Falerno Varina réinvente aussi bien le langage que la manière de le recevoir. La force de sa poésie active consiste non pas à désigner ou à décrire l'homme et le monde, selon une conception fonctionnelle ou utilitaire du langage, mais à faire exister ou à donner corps à la pensée humaine et, dans le domaine du théâtre, à explorer tous les possibles du discours et de l'énonciation théâtrale. C'est la raison pour laquelle Céline Hersant aborde cette écriture dramatique comme un patchwork, dans lequel elle analyse l'alternance et l'irrégularité des formes et des vitesses. Les constructions en miroir, les phénomènes d'invention, ou la reprise et la variation de motifs qui tendent tous à provoquer la parole, c'est-à-dire à la faire surgir de différentes manières, s'élabore une sorte de nouvelle rhétorique mise au service de ce qu'est le langage, à savoir une force vive et en mouvement, dont on peut donner quelques principes récurrents de ce théâtre. Les définitions, les néologismes, les listes de mots ou les aphorismes en tout genre. De même, les personnages ne cessent de définir ce qu'est le langage et l'usage qu'ils en font, tout en tenant un rôle proprement énonciatif et par conséquent théâtral, en posant des questions, en affirmant, en contestant, en commentant ou en racontant, comme le fait la machine à dire la suite de la scène. Voire en adoptant la figure de l'ouvrier du drame pour renvoyer au personnage régisseur de l'acte inconnu. Il s'agit d'aller à l'encontre du fonctionnement linéaire du dialogue de la tradition théâtrale, par la recherche d'un déséquilibre dans l'agencement des répliques, par le procédé de l'interruption, par l'insertion de soliloques ou de monologues, mais encore par l'enchaînement de propositions contradictoires ou par le surgissement de questions restant sans réponse. Dès l'Atelier volant, donc paru en 1971, le personnage de La Bouche personnifie l'importance d'une parole qui, dans le Babil des classes dangereuses, paru en 1972, devient une arme pour combattre la loi, le conformisme et le matérialisme. Dans La lutte des morts, paru en 1979, on suit les efforts d'une vieille langue pour se maintenir en vie, tandis que Vous qui habitez le temps, qui est une pièce de 1989, donc ce Vous qui habitez le temps, renoue davantage avec le dialogue dans une suite d'entretiens philosophiques. Mais ce théâtre se caractérise également par la prolifération des instances de parole. On en compte par exemple 257 dans le Babil des classes dangereuses et 2587 dans le drame de la vie. Il s'agit en outre d'instances de parole aussi diverses que le sont leurs désignations, avec le veilleur, la femme au chiffre, Jean Dutens, le chercheur de Falbala, les enfants Parieto, ou bien encore autrui, dans Vous qui habitez le temps. Autant dire qu'il n'est pas question de se ranger du côté d'un théâtre psychologique ou même fictionnel. Je renvoie encore à d'autres pièces pour témoigner de la prolixité de cet auteur. La chair de l'homme, devenue pour la scène le repas. Je suis, devenue pour la scène l'espace furieux. Mais encore, le jardin de reconnaissance, l'opérette imaginaire, l'origine rouge, la scène ou l'acte inconnu, accueilli au Théâtre national de Strasbourg. Valère Novarina interroge non seulement l'image que nous avons de notre langue, mais également notre compétence linguistique, et cela de manière ludique, notamment avec le principe de l'outrance ou de la disproportion. Je pense par exemple aux vastes listes de noms propres esquissant de fictionnelles généalogies ou dynasties dans plusieurs des pièces. Cette parole plurielle ou vivante met en œuvre la théâtralité du langage, telle que peut la définir Henri Méchonic, un autre immense poète décédé lui aussi. Donc, telle que peut la définir Henri Méchonic, une théâtralité qui tient au travail du langage, car celui-ci tient lieu d'action, d'espace, de temps, voire de personnage, si bien qu'il emporte sur les composantes ordinaires du drame. En étant proféré par un comédien, il devient l'élément principal de la représentation et de sa réception. Sur la scène novarinienne, l'acteur doit se libérer de son être social et de son visage humain, accepter d'être un animal traversé par le langage. C'est la raison pour laquelle, dans La lettre aux acteurs, Valère Novarina revendique un théâtre écrit par et pour les oreilles, lequel exige par conséquent des comédiens ou des comédiennes d'intensité et non d'intention, ou encore des acteurs pneumatiques, au sens où pneuma renvoie au souffle. Il s'agit de redonner du corps à une langue figée ou muselée par la communication et l'information, par des discours des politiques ou des médias, afin de réapprendre au lecteur ou au spectateur à parler comme à entendre, et cela en étrangéisant ou en renouvelant son rapport au langage. Que Valère Novarina soit loué pour cette généreuse et salutaire entreprise. Fin de citation. C'était le témoignage de Geneviève Joly, professeure en art du spectacle, qui enseigne à l'UFR des arts à l'Université de Strasbourg et qui nous éclaire donc sur l'œuvre de Valère Novarina. On peut dire donc, un petit peu pour résumer, que la poésie, avec Valère Novarina et d'autres, la poésie a cesser de se cantonner au livre, à la page. Il s'agit de faire une expérience dont la dimension sensorielle est importante et qui se veut au carrefour des disciplines artistiques. Alors, on a Valère Novarina avec le théâtre, la musique, la peinture, mais on a aussi des performeurs qui allient la musique, les images. C'est quelque chose qui, depuis la fin des années 80-90, si je ne me trompe pas, avec l'évolution de la danse contemporaine, on voit cette évolution à la fois des disciplines artistiques qui viennent à la rencontre de la poésie écrite et la poésie écrite qui sort du livre pour aller à la rencontre de ces autres disciplines, afin que cette poésie devienne une expérience qui bouscule, qui fasse perdre les repères, qui change notre rapport au sens et au langage. Écoutons à présent la voix de Valère Novarina, enregistrée à la Maison de la Poésie de Paris, qui, soit dit en passant, se trouve passage Molière. Ça ne s'invente pas. À l'occasion d'un cycle de 3 jours avec Valère Novarina, organisé par la Maison de la Poésie et Olivier Chaudançon, le 18 février 2014. Valère Novarina a lu des passages de son livre intitulé « L'espace furieux », publié aux éditions POL en 2006, qui se trouve être une version nouvelle de « L'espace furieux » publié en 1997, et ce texte étant lui-même une adaptation de « Je suis » paru en 1991, toujours aux éditions POL.
Le personnage s'appelle le vieillard Carnatif. L'hiver revenait me tirer de ma stupeur alpestre et m'empêchait de rejouer toute la journée à juge croquet, à chapeau prisonnier, et à hiver revient l'été, à Jean Bernard, à la Coulmel, au Cherche-Lampion, à la Vardas, à Sortaniche, à Calibu-Calibu, et de regarder des semaines entières l'ensemble béni des choses que Dieu avait disposées autour de moi. 1. Cette table. 2. Ce mur. 3. Ma chambre. 4. La maison sortant du toit. 5. La terre sous le pied. 6. Ciel. 7. Lune pour me veiller. 8. Soleil pour m'éclairer. 9. L'ensemble mêlé en 8 des chiffres de nébuleuses et stellarions. 10. Le mystère de l'espace là. 11. Le temps 1. Lendemain de cette grande faillite, j'avais rien chaque matin dans la glace que ma face au milieu du miroir de ma figure. Je ne voyais aucune lumière, même dans le fond de ma poussière, quand je nous considérais. Sortant des Alpes, à station 6, à borne 27, à bidon 3, station Pablo Neruda, tout d'un coup, bref, aux gens du compartiment, j'ai crié « Gens du compartiment, sortez de ma compagnie immédiatement, enfants de la lumière des hommes !» Et ils me répondirent en me lançant des regards absents. Alors j'ai compris que la mort était l'erreur de ma vie. Et aux yeux de ces gens-ci et devant ces gens où j'ai été cadavre ici et là, j'ai dit à mon cadavre, « Michel, Michel, venez jeter Jean, c'est vous le cadavre d'ici. » Je partirai de mon cadavre à l'heure dite, car nous ne voyons la lumière de Dieu que grâce à la poussière des choses du monde quand elles viennent vers nous. Pourquoi celle-ci plutôt que celle-là? Et pourquoi ces gens sont-ils morts maintenant? J'allais alors avec ma tête tout en cendres, et je jetais mes cendres à la tête des animaux, sur des publics, dans des parkings globaux, dans des centres de loisirs commerciaux, dans des surfaces de Livry-les-Plâtres, de Gargan. J'allais jeter mes restes de cendres sur des bretelles d'autoroute de U et les disséminer dans des nationales bordées, dans des Y, en ville de B, en ville de A, à Parthénon, à La Roche-sur-Itau. Puis je me décidai enfin d'aller baptiser chez les hommes et leur annoncer qu'il leur tomberait un jour des murs dessus et les nommer rois de surdité, car personne n'écoutait la chanson des pierres que je leur jetais à l'époque. Je vis alors les corps humains sortir vivants d'où ils étaient tombés, hors des passages cloutés, en hôpitaux blancs et en lambeaux serrés sous les voitures qui suivent, en terre, en mer et en air. Je voyais les morts ressuscités, en vrai et en ossements blanchis, qui revivent partout, qui sortent des trous. Voix dit, tu es Jean, sans qu'aucune résurrection puisse sortir de toi seulement, tu attends. Et il fit un cercle. J'en sortis et je fus bien. Alors il demanda à l'enfant suivant, à titre questionnatif, « Exprimez-vous avec des idées non parlées à titre informatif et dansez-nous la liste des questions non posées par les mots. » Alors il dit à sa femme, à titre d'ossement, « Vous n'êtes que le jouet du vent
lequel vent ouragan me redit sur le champ, remettez-vous immédiatement à faire semblant d'être en homme. Alors je m'en abstins et je suis bien.
Vous venez d'entendre Valère Novarina lire des extraits de L'Espace furieux, et je rappelle que vous écoutez D'assonances en dissonance, une émission consacrée à la poésie contemporaine. Aujourd'hui, je rends hommage à Valère Novarina et à Jean-Marie Glaize, tous deux décédés en début d'année 2026. Penchons-nous à présent sur l'œuvre de Jean-Marie Glaize. Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, Jean-Marie Glaize a été professeur de lettres à l'Université Aix-en-Provence, puis à la section littéraire de l'École normale supérieure de Lyon, où il a dirigé le Centre d'études poétiques de 1999 à 2009. Il vivait à Volx, dans les Alpes de Haute-Provence. Outre ses différentes publications, il a assuré la direction de la revue Gnoc, qu'il a créée en 1990. Il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont plusieurs, consacrés à Francis Ponge, parmi lesquels on retiendra « À Noir », paru en 1992, « Les chiens noirs de la prose », paru en 1999, et plus récemment « Tarnac », paru en 2011, ainsi que « Le livre des cabanes », paru en 2015. Jean-Marie Glaize cherchait à produire une poésie réaliste, tout en reconnaissant l'impossibilité d'un résultat purement objectif. On peut dire qu'il avait une écriture fragmentaire et qui s'attachait à divers dispositifs, incluant les notes, l'inclusion de textes, et des textes hétérogènes d'ailleurs. Il incluait des citations intertextuelles allant jusqu'à l'appropriation, mais aussi les références cinématographiques et la photographie. En 1987, il avait proposé le concept de simplification lyrique, et son travail de critique l'a amené à penser dans les années 1990 la nudité et la littéralité comme des concepts d'analyse poétique et artistique. Il faut entendre la littéralité comme l'absence de métaphore, comme l'absence d'image. Il disait « laver la langue de la fatalité analogique métaphorique ». La poésie, selon lui, devait ne plus adhérer ni au lyrisme, ni à la représentation. Il s'agit d'une post-poésie, un après la poésie traditionnelle, qui résiste par l'écriture au confort de la figurabilité du langage. Jean-Marie Glaize avait déclaré, et j'ouvre les guillemets, « La poésie n'est pas autre chose dans son histoire moderne, une fois effondré le consensus formel garantissant sa reconnaissance, que mise en question, redéfinition ou annulation de la poésie par la poésie, ou tentative de déboucher sur autre chose. Un autre site, qui n'a pas encore de nom. » Je ferme la parenthèse. Jean-Marie Glaize remettait donc en question l'identité même de la poésie et ne craignait pas d'y mêler une dimension politique. La preuve en est ce petit poème dit par le comédien Jacques Bonnafé dans son émission. Jacques Bonnafé lit la poésie. Et c'était sur France Culture le 28 mai 2018.
Déplacer, se déplacer, ici, sans lien, sans lieu. Épeler une révolution possible. Le récit commence avec la rivière. Nous n'avons pas de nom. Les morts reviennent quand il pleut. Une écriture à fragmentation. La politique comme une gorgée d'eau. Ici, aux lisières, avec les restes brûlants. Faire pousser des ronces. Le présent simple. Un communisme sensible.
Je vais relire ce poème de Jean-Marie Glaize, dit par Jacques Bonnafé, tant ce poème est dense. Déplacer, se déplacer, ici sans lien, sans lieu. Épeler une révolution possible. Le récit commence avec la rivière. Nous n'avons pas de nom. Les morts reviennent quand il pleut. Une écriture à fragmentation. La politique comme une gorgée d'eau, ici, aux lisières, avec les restes brûlants. Faire pousser des ronces. Le présent simple. Un communisme sensible. Non pas appeler une révolution, mais épeler une révolution sensible, nous dit Jean-Marie Glaise. Le récit commence avec la rivière, dit-il. Il s'agit donc d'un flux, d'un élément liquide avec phénomène d'évaporation grâce auquel les noms se perdent, mais le phénomène de condensation fait retomber en pluie. Et ce sont alors les morts qui viennent nous visiter. Cette pluie, ces gouttes, sont bien des éléments fragmentés de l'élément eau dans son processus d'écoulement. Et la politique abreuve qui a soif, qui brûle de voir un monde meilleur dans des contrées de marginalisation, les lisières, ou faire pousser des ronces, comme on résisterait avec le projet non dévoyé d'un communisme sensible. Après Tarnac et le livre des cabanes, Jean-Marie Glaise propose avec son livre « Trouver ici » une écriture de la politique, et je le cite, « simple comme une gorgée d'eau ». Communisme est à comprendre non comme un programme, non comme un système, un régime ou un idéalisme. Il s'agit pratiquement d'une mise en commun, et ce matériau commun, c'est la langue, le langage. Je cite Jean-Marie Glaise de nouveau. Quand on apprend à parler, on commence des phrases, on lance des mots. Parfois elles se cassent, parfois ils tombent. Il faut alors éviter la fausse musique, tenir, ne pas se laisser impressionner par leurs méthodes stupides et inconsistantes. En un mot, ne pas s'abandonner aux stupéfiants lyriques, aux drogues dures et douces de la poésie. Trouver ici, ce livre de Jean-Marie Glaise reprend son travail de fabrication d'une poésie du commun, conçue comme le sabotage d'un récit initial. Aller vers la poésie brutale, celle qui se cogne aux arbres jusqu'à parvenir à une écriture déviée, et c'est cette écriture déviée qu'il appelle un communisme sensible par la mise en commun du langage, des mots. Écoutons Jean-Marie Glaise répondre à la question de Olivia Gesbert dans son émission diffusée sur France Culture en juin 2018, La Grande Table.
Jean-Marie Glaise, vous, votre poésie, c'est un message que vous envoyez à un ou à une ou à un collectif?
Oui, alors moi j'ai un petit problème par rapport à, disons, ce type de conversation parce que j'ai l'impression de ne pas écrire de poème. Je n'entends pas l'écriture comme une écriture en poème d'une certaine manière, c'est-à-dire en, disons, ces petits objets définitifs ou éphémères et qui s'inscriraient sur la vitre, etc. Je n'arrive pas à m'imaginer la poésie comme ça. Disons que pour
vous
moi,
écrivez en quoi alors?
Il y a ce chemin d'écriture. En quoi? C'est-à-dire en un français dévié, si vous voulez, si vous m'interrogez sur ma langue. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je m'adresse? Je pense que l'écriture, elle est toujours, en effet, c'est une situation paradoxale où on est infiniment seul, radicalement seul, et en même temps, cette solitude, c'est une solitude adressée, effectivement. Mais alors, adressée à qui? Bien entendu, on ne sait pas. Un certain nombre de romanciers, disons, qui savent ce qu'ils font, ils s'adressent à un public qu'ils connaissent ou qu'ils croient connaître ou qu'ils croient viser. En ce qui nous concerne, qui sommes plongés dans des gestes d'écriture un peu insaisissables ou un peu difficile à définir, y compris, je dirais, y compris génériquement, ça n'est pas la même chose. Nous ne connaissons pas ce public. Nous nous adressons nécessairement à quelqu'un, nous disons quelque chose à quelqu'un, mais ce quelqu'un, il est invisible, évidemment, complètement invisible. Et cette situation est très particulière, très déstabilisante, très, 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 très singulière.
Il y a l'adresse Jean-Marie Glaize, mais il y a aussi la conversation. Quels sont les auteurs avec lesquels vous avez envie de dialoguer aujourd'hui encore et qu'on retrouve d'ailleurs dans ce livre trouvé ici?
Vous parlez d'écrivains d'aujourd'hui. Eh bien, bien entendu que je m'intéresse aux écrivains d'aujourd'hui. C'est pourquoi je publie une revue qui s'intitule, que j'ai créé une revue dans les années 90 déjà, qui s'intitule Gnoc, qui est un mot emprunté à Francis Ponge. Et donc, Francis Ponge est un de ceux auxquels je me suis, dès longtemps adressé de son vivant. Et au-delà de lui, bien entendu, cette revue, elle est faite pourquoi ? Elle est faite pour essayer de proposer des formes d'écriture autres, disons après la poésie, si l'on veut, dans la mesure où un autre de mes repères théoriques et pratiques, c'est Denis Roche qui a créé la collection Fiction et compagnie, et auquel j'étais évidemment très attaché par l'amitié, et l'amitié d'écriture et l'amitié théorique. Et donc, d'une certaine manière, j'ai travaillé aussi, puisque vous le signaliez tout à l'heure, comme étudiant ou comme directeur de labo à l'ENS de Lyon, à essayer de comprendre ce qu'il en est de ce geste poétique après la poésie, la post-poésie d'une certaine manière. Voilà dans quoi je suis. Et je dirais, étant donné la difficulté de l'adresse, cette difficulté que j'évoquais tout à l'heure, j'essaie de concentrer mon attention non pas sur cet autre invisible auquel de toute façon je m'adresse, mais sur la réalité elle-même, sur le monde objectif, sur le monde qui m'entoure, hein, c'est la raison pour laquelle, par exemple, un des mots d'ordre auxquels j'essaie de parvenir, c'est auquel je, disons, que je répète un peu dans beaucoup de mes livres, c'est j'utilise pour écrire les accidents du sol. Ces accidents du sol, eh bien, dans mon déplacement permanent, c'est le fait d'essayer de tenir compte du terrain, des contextes, des irrégularités du réel, de ce qui survient, de ce qui s'interpose, des obstacles, disons des circonstances.
Eh bien, pour illustrer les propos de Jean-Marie Glaize, je vous propose d'écouter de nouveau Jacques Bonnafé dire un poème de Jean-Marie Glaize intitulé « Il faut construire des cabanes » et dans ce poème vous reconnaîtrez certaines propositions citées par Jean-Marie Glaize dans l'entretien avec Olivia Gesbert. « Il faut construire des cabanes ».
Il faut construire des cabanes. Oui, nous habitons vos ruines, mais oui, ceci est un projectile. J'utilise pour écrire les accidents du sol. Aller vers un arbre. La poésie n'est pas une solution. Boire un oiseau. Noir écran. Manger un poisson de source.
Vous venez d'entendre la voix de Jacques Bonnafé dire un poème de Jean-Marie Glaize. Il faut construire des cabanes. Et c'était un enregistrement effectué le 28 mai 2018 et diffusé sur les ondes de France Culture. Écoutons maintenant Jean-Marie Glaize, enregistré à la Maison de la Poésie à Paris en 2015. Il dit un poème sur un montage sonore et vidéo de Éric Pellet. Et c'était un montage effectué sur la base d'extraits du livre de Jean-Marie Glaize intitulé « Tarnac ». Tarnac étant un lieu. Et un lieu symbolique, un lieu fétiche pour Jean-Marie Glaize.
La platitude du pré ayant d'abord été dite, la prise de conscience soudain de la constante insurrection de l'herbe nous ressuscite. Il ne crève plus nos yeux avec des épingles, mais avec des images. des murs d'images toxiques. Le pouvoir est à nouveau divin puisqu'il peut agir invisiblement. Notre nom est écrit dans l'eau. Il a plu, il pleut, il pleuvra à la surface de la rivière. Bientôt, nous n'aurons plus de nom. Nous deviendrons nous-mêmes. Nous serons libres. C'est la grève active. Il faut construire des cabanes.
Après ce montage enregistré à la Maison de la Poésie, à partir d'extraits du livre de Jean-Marie Glaise intitulé Tarnac, je vais continuer donc avec ce commentaire qui est celui de Florence Trocmé, publié sur son site Poésie Bao. Je cite donc Florence Trocmé. Je sais que Tarnac est omniprésent dans l'œuvre de Jean-Marie Glaise. Je cherche à en savoir plus et j'effectue une recherche avec l'intelligence artificielle qui me conforte dans ce que je pressentais. Ce n'est pas simplement une évocation du fait divers de 2008, c'est bien plus que cela. C'est d'abord un lieu de retrait, d'écart. Tarnac est d'abord un village du plateau de Millevaches, en Corrèze, territoire rural, marginal, faiblement peuplé, historiquement éloigné des centres de pouvoir. Ce caractère périphérique est essentiel. Qui semble apparaître dans la vie ou l'œuvre vers les années 2000, donc antérieurement aux événements de Tarnac, vol de câbles attribué à Julien Coupa et ses amis, affaire devenue pour Glaise un symbole de l'état sécuritaire. Mais c'est aussi un site poétique, vrai laboratoire d'une poésie fondée sur le document, la note, le fragment, sans effusion ni ornement, post-lyrique en somme. C'est aussi une sorte d'utopie. Une forme de vie possible plus solidaire, moins productiviste. Je remarque aussi l'écriture du titre de ce nouveau livre sans les voyelles, T-R-N-C. J'ai noté plusieurs allusions de Glaise au judaïsme dans le livre. Faut-il voir dans ce livre à consonne, seul, sans voyelle, une référence à l'hébreu ? Glaise vit à Tarnac, sur le plateau de Millevaches, en Corrèze, depuis de nombreuses années. Ce n'est donc pas un lieu imaginé, mais un lieu d'expérience quotidienne. Marcher, habiter, observer, se retirer, écrire. Il y a dans le livre de nombreux noms de lieux, et cette dimension est essentielle car son travail repose sur une poétique de la situation plutôt que de la représentation. Il y a d'ailleurs toute une approche autour de la cabane qui me rappelle à la fois le travail de Fred Griot et bien sûr Ish Vavar. L'intelligence artificielle, encore elle, me propose cette formule qui me semble très claire. Tarnac est le lieu où la poésie peut encore tenir debout, à condition d'accepter de ne tenir que comme une cabane. Et je ferme les guillemets. Voilà, c'était le commentaire de Florence Trocmé à propos de Tarnac, lieu emblématique et livre de Jean-Marie Glaise. Et nous pouvons poursuivre maintenant avec de nouveau l'entretien et les questions de Olivia Gesbert dans son émission enregistrée en mai 2018, La Grande Table, où Jean-Marie Glaise évoque son enfance sur le plateau de Millevaches.
Tarnac, pour vous, Jean-Marie Glaise, en quoi est-ce un territoire poétique ?
Ah, je ne sais pas si c'est un territoire vraiment poétique, c'est un territoire en tout cas silencieux, de solitude et en même temps un lieu où s'est imaginé dans la période récente, parce que évidemment c'est un lieu qui pour moi est un lieu d'enfance, hein. Le plateau de Millevaches, la bruyère, les fougères, la forêt, Et en même temps, c'est un lieu qui a été revivifié en quelque sorte dans la période récente par une communauté qui s'est installée là. Et vous avez entendu parler de l'affaire, entre guillemets, de Tarnac. Ce sont des gens qui se sont installés en communauté dans le village et autour du village pour susciter des formes de vie nouvelles et pour imaginer en quelque sorte... au cœur de la forêt, d'autres façons d'être ensemble, de vivre ensemble, de travailler ensemble, de penser ensemble, etc. Donc, Tarnac, c'est pour moi une zone d'autonomie active, une zone d'autonomie provisoire peut-être, mais voilà, c'est cela. Et c'est cet espace de recueillement aussi, de méditation et de contemplation qui est propice à cette façon de pratiquer silencieusement le langage qu'est l'écriture. Le langage oral, je veux dire l'oralité, là, voilà, a été d'une certaine manière mon outil de travail. Comme enseignant, etc. Mais j'ai bien compris que rien d'important ou de sérieusement solide ne s'accomplissait oralement, enfin dans l'improvisation de la conversation, etc. Il y a une certaine inconsistance dont j'ai très 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 conscience dans le propos oral et au contraire, évidemment, lorsque on en revient au silence de l'écriture ou à l'écriture silencieuse, cette façon qu'a le langage de se taire à travers une gestuelle, une chorégraphie spécifique qui est celle de l'écriture. Alors là, évidemment, voilà, je veux dire, Tarnac, pour moi, c'est cela. Hein, c'est le lieu même de l'écriture. C'est le lieu matriciel, en quelque sorte.
Vous venez d'entendre Jean-Marie Glaise évoquer son enfance, le plateau de Mille Vaches et ce lieu symbolique emblématique qui a pour nom Tarnac. Et vous l'avez entendu, ce lieu n'est pas seulement un lieu géographique, ce lieu n'est pas seulement un endroit d'exploration communautaire, c'est le lieu de l'écriture, l'écriture qui contraste avec le langage oral, c'est un lieu de langage écrit en opposition au langage oral, au langage parlé, le langage de l'improvisation. Le langage de l'écriture, lui, requiert le silence, requiert de se réfugier dans ce lieu à proprement parler, afin de tirer du langage autre chose que ce que la parole donne. Jean-Marie Glaise avait pour coutume de donner des sous-titres à ses livres. Par exemple, le livre intitulé « Je deviens » est sous-titré « Séance ». Les premiers énoncés du volume répètent le titre en y associant celui d'un précédent livre « Je reviens, je deviens, je reviens encore » comme pour trouver ici. « Je deviens » est sous-titré « Séance ». Le principe de nudité intégrale sous-titré « Manifeste ». Le livre « Film à venir » est sous-titré « Conversion ». Le livre des cabanes est sous-titré « Politique » ou encore « Trouver ici ». Dans le livre « Je deviens », la reprise d'un titre « La nudité gagne » paru chez Aldont en 1995 entre dans la composition. D'un livre à l'autre, certaines phrases, motifs, références circulent dans la composition du texte. Et je cite un extrait. L'autre est encore la répétition, même geste de rêve, même défection nocturne, même déplacement, même récit. Et je ferme les guillemets. Jean-Marie Glaise, à ce sujet, à propos de ce procédé de reprise de répétition, commentait. Et j'ouvre de nouveau les guillemets. Je le cite. « Je deviens » est d'abord le titre d'un chapitre, le deuxième de mon précédent livre, dans le style de l'attente. C'est lui d'abord qui revient, ce livre. De même que le « Trouver ici », titre du livre qui précède l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'un retour, d'un devenir sur place, du déplacement d'un ici. Parce qu'ici n'est vraiment nulle part, où l'on ne sait où, dans le passé, ou dans le présent, ou dans le futur présent, celui du devenir incertain. Sur la première page, tout en bas de la page, presque invisible, du moins on peut facilement le manquer et percevoir comme une page tout à fait blanche, il y a une dédicace pour ces revenants. Ceux qui reviennent vont revenir, les morts qui circulent sans bruit au travers de ces fragments, de ces bribes ou de ces boucles. La répétition est en effet un des principes essentiels ici de l'écriture, comme dans la mémoire ou le rêve. Non seulement les motifs passent d'un livre à l'autre, mais d'une phrase à l'autre, se déplacent. Ils font et défont le récit. Je suis très sensible depuis longtemps à la musique répétitive qu'on dit aussi minimaliste. Steve Reich, Phil Glass, qui est d'ailleurs nommé dans le livre « Les yeux fermés sur la musique de Phil Glass ». Si beaucoup des livres du cycle portent ces sous-titres, manifeste, conversion politique, relique, lisière, séance, c'est précisément pour ne pas être lu comme des poèmes. Et chacune de ces catégories, plus ou moins étrangères au vocabulaire générique courant, dit une manière d'écart spécifique, suggère à chaque fois une des façons dont se désoriente le récit. Si l'on y regarde de près, le livre intitulé « Je deviens » est composé à partir d'un matériau hybride, à savoir des fragments du journal, un cahier noir, des bribes de récits, de rêves, des proses traversées par les fantômes d'ici, et quelques figures d'écrivains, d'artistes, dont Rothko, le peintre, en début de volume. Et le livre est articulé autour de 14 sections que Jean-Marie Glaise pensait plutôt voyait comme des stations, 14 stations, au lieu des 15 du chemin de croix. En ouverture, cette mention. Tarnac, le 14 août. Et pour clore le livre, une séquence intitulée « Les barricades ». Et dans ce livre, on peut lire ceci. J'ouvre les guillemets. « Tous sont un seul et même récit, dont le caractère stupéfiant ou extraordinaire est fondé sur la monotonie, la monochromie, la simplification extrême. Oui, poésie, nous a rendu familiers à la réduction du récit, à son plus élémentaire, à son évidence ultime. » Et je ferme les guillemets. Il y a donc, dans le travail de Jean-Marie Glaise, deux axes, la répétition et la simplification. Une section, ou bien station, est photographique. Elle est titrée « Inventaire ». Elle est amorcée par un court énoncé qui se porte à la fois autour des morts, des revenants et des choses du quotidien. À ce propos, Jean-Marie Glaise commentait le rapport entretenu entre la séquence photographique avec le matériau textuel autobiographique présent dans le volume et il disait ceci. J'ouvre les guillemets. Oui, il s'agit d'un inventaire après la mort, d'une archive. L'intérieur d'un appartement où tout était déjà mort avant. Le paysage de la désolation la plus quotidienne, l'ordre définitif, le présent continu de l'absence. Le passage au noir et blanc, pour toujours, d'une série de photographies en couleur. Une séance ultime de décoloriage. Dans le chapitre intitulé « Les lignes cassent », il semble être question de ces images. Et je cite. « Et ce sera comme une pluie de musique hors le temps sur la mort et ses bandelettes. L'échafaudage va bientôt disparaître. Tout s'écroulera et ne subsistera qu'un éclat de présent perdu. » Je ferme les guillemets et je continue sur le commentaire de Jean-Marie Glaise. Les revenants dédicataires traversent tout le livre. Ils occupent l'écran noir du poste de télévision. Ils dialoguent en silence à l'intérieur de tous les mots ou de cette musique hors le temps. D'une certaine façon, je pourrais dire que cette station photographique occupe le centre du livre. C'est un trou. Et c'est sur ce trou, laissé par la disparition de Jean-Marie Glaise et de Valère Novarina, que s'achève l'émission. C'était « D'assonances en dissonance ». Je vous retrouve le deuxième jeudi du mois prochain avec un nouvel épisode de l'exploration de l'univers de la poésie contemporaine. Et d'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.